Annette et le criminel, chapitre 21. Charles, revenu à Valence, raconta à sa mère l'événement extraordinaire qui venait de changer son âme, et il s'écria « Sans lui, je serais mort. J'ai tant fait contre lui que je dois désormais lui consacrer la vie qu'il m'a sauvée. » Il sortit pour aller chez le juge d'instruction de Valence. En effet, l'on va voir quelle influence cette visite pouvait avoir sur le sort d'Argot. Un mois avant, Charles Servigné, lorsque Mademoiselle Sophie vint voir Adélaïde, avait été frappé des singuliers indices que présentait la conduite de Desec et de son cousin. Il avait réfléchi à cette affaire et, porté par la nature de ses fonctions à chercher et à deviner les crimes, il avait fini par écrire au procureur du roi d'A, dont Honnet le vicomte ressortait, et il avait soumis, dans sa lettre à ce fonctionnaire, une foule de questions sur M. de Durental, Vernier, Desec et Marguerite. Alors il était guidé par sa haine, et il avait présenté les questions d'une manière désavantageuse à son cousin. Les recherches, les indices, les correspondances avaient demandé un temps infini. Mais une chose qui étonna singulièrement Charles, ce fut qu'il ne reçut jamais de réponse décisive de son collègue, et qu'au contraire, ce dernier lui demandait des renseignements qui prouvaient que le procureur du roi, d'A, connaissait tous les personnages sur lesquels Charles avait appelé son attention. Enfin, la veille du départ de Charles pour Durental, le juge d'instruction de Valence lui avait dit « Nous avions depuis longtemps une correspondance avec Honnet et A. Nous avons maintenant toutes les pièces. » Cette phrase, que Charles entendit en silence et sans y répondre, lui fit voir que son cousin était gravement compromis. Toujours poussé par sa haine et son envie, il avait été sur-le-champ à Valence pour exploiter à son profit la terreur qu'il comptait jeter dans l'âme de sa cousine. Mais l'événement dont on vient de lire le récit, les paroles touchantes de son cousin, opérèrent sur son cœur une révolution étonnante. Et comme il savait que l'on ne pouvait commencer aucune poursuite contre son cousin sans lui, il accourait chez le juge prendre connaissance des papiers envoyés d'A et les enlever. Arrivé chez le juge, on lui dit qu'il venait de partir pour se rendre chez lui. L'impatience que lui causa une telle circonstance le fit revenir précipitamment. Il le trouva, en effet, mais le juge était chez Madame Servigné, et arrivant dans le salon, il entendit sa mère qui racontait au juge d'instruction la singulière manière dont son fils venait d'être sauvé de la mort. Elle détaillait, avec la complaisance des bavardes, la propriété de cette arête empoisonnée. Et, en entendant ce sujet de conversation, Charles maudit la langue de sa mère, et se maudit lui-même d'avoir parlé. Son premier mot en entrant fut de dire « Monsieur, donnez-moi au plus tôt les papiers qui concernent Honnet. » « Monsieur, dit le juge, c'est impossible, car cette affaire ne vous regardera pas. Vous n'êtes plus procureur du roi à Valence. » Et monsieur le préfet vous remettra probablement votre nomination à de plus hautes fonctions. Je sais qu'il a reçu de G un envoi qui vous concerne. Je venais vous faire mon compliment. » Charles resta atterré, car il envisageait les conséquences de cette nomination intempestive, qui, certes, n'était pas favorable à monsieur de Durental. Et qui est nommé à ma place? Monsieur de Ruizan. « Quoi, mon substitut? Celui qui m'en veut le plus à Valence? Monsieur, continua Charles en s'adressant au juge, ayez la complaisance de passer dans mon cabinet. Je voudrais avoir l'honneur de m'entretenir avec vous un instant. » Lorsqu'ils furent ensemble, Charles interrogea de l'œil le sévère magistrat qu'il avait en sa présence et lui dit « Monsieur, depuis quand le procureur général vous a-t-il instruit de mon changement ?» « Depuis 2 jours. »« Grand Dieu !» s'écria Charles. « Et depuis 2 jours, monsieur de Ruizan exerce ?»« Oui. »« Maintenant, dites-moi si les pièces que vous avez reçues du procureur du roi à A incrimine fortement monsieur de Durental.
Monsieur, il ne m'est plus permis de vous confier les secrets du tribunal, puisque vous n'en faites plus partie. Mais je sais que l'estime que le ministère a pour vous et la position dans laquelle cette affaire vous mettrait ont été la cause majeure de votre changement. Car je l'ai appris à G, où j'ai été avec monsieur de Ruizan consulter le procureur général.
Monsieur, je comprends, dit Charles, pâle et blême, presque égaré. Mais c'est une barbarie que de m'avoir caché l'arrivée des papiers d'A, car il y a longtemps qu'ils doivent être ici.
Monsieur, reprit le juge avec une grande dignité, si je l'avais su, je crois que tout en transgressant mon devoir, je vous l'aurais dit. Mais vous savez comme moi que nous basons notre opinion sur vos réquisitoires. Enfin, c'est monsieur le procureur général qui a correspondu avec votre confrère.
Je perds du temps, s'écria Charles.
Oui, lui répondit le juge avec un geste significatif. Charles resta glacé d'horreur et s'aperçut à peine du départ du juge.
« C'est donc moi, s'écria-t-il, dont la haine aura conduit un homme.
« Où ? » se dit-il.
Il frissonna, s'élança dans le salon. « Ma mère ! Ma sœur ! Qu'as-tu, Charles ? Gardez-vous de prononcer un seul mot sur monsieur de Durental. Adieu !» Et il sortit comme égaré, se dirigeant vers un loueur de chevaux pour pouvoir arriver à Durental et prévenir sa cousine, s'il en était encore temps. Pendant qu'on selle un cheval et qu'on s'étonne que Charles se mette en voyage si tard, pendant qu'il récapitule en sa tête les moyens de salut pour son cousin, rétrogradons un peu et voyons la cause du silence du juge d'instruction. Le procureur du roi d'A, voyant que monsieur de Durental était le cousin de Servigné, crut que ce dernier voulait sauver Argot, et il adressa toutes les pièces au procureur général, en lui faisant observer de mener cette affaire importante avec le plus grand secret. Lorsque les pièces arrivèrent, il s'agissait de confronter avec De Sec si monsieur de Durental était bien Argot. Et le matin même du départ de Charles pour Durental, monsieur De Sec, mandé par la justice, avait été amené devant le juge.
« Vous ne vous appelez pas De Sec ?» lui avait dit le magistrat avec cet air de conviction et cette autorité sévère qui en impose tant.
« Si, monsieur. »
« Non, vous vous appelez Le Sec. »
« C'est une erreur de copiste, car mon extrait de naissance a été falsifié, car l'encre qui d'un L a fait un D a paru quelque temps après. Mais ce n'est pas l'objet de notre conférence. Vous avez été maître d'école. » Et vous ne possédiez rien.
Oui, monsieur.
Vous êtes devenu riche le lendemain de la fuite d'un nommé Argot, arrêté par vous, par monsieur Gradavel, maire de votre commune, et par monsieur Marignon, le juge de paix. Et ce fut à vous que la garde en fut commise.
Cela ne prouve rien, monsieur.
Cela prouve qu'il vous a donné de l'argent parce qu'il est extrêmement riche, et que vous l'avez accepté parce que vous étiez extrêmement pauvre. Est-ce vrai ?
Ici, Le Sec balbutia et voulut nier.
« Allons, c'est vrai, tout au nez le certifie. »«
Monsieur, c'est vrai !» dit Le Sec épouvanté.
« Ce n'est pas tout. Argot, l'assassin de monsieur de Saint-André, et l'affreux pirate qui a dévasté les mers, est de votre connaissance, vous l'avez revu. »
« Non, monsieur !» s'écria Le Sec.
« Monsieur, prenez garde, c'est monsieur de Durental, et vous le savez !»
Ici, le pauvre maître d'école, effrayé, trembla tellement qu'il chancela sur ses jambes et tomba par terre. Cette frayeur plut au juge, et un sentiment de commisération se glissa dans son âme pour le pauvre maire.
« Monsieur !» dit-il en l'aidant à se relever et le faisant asseoir sur son fauteuil. La justice n'ignore jamais rien quand une fois elle veut scruter la conduite d'un homme. Car avant de le mander, il faut que l'autorité ait des soupçons qui équivalent à des réalités. Or, vous voyez que toute feinte est inutile. Votre conduite renferme des crimes.
car faire évader un assassin et recevoir de son argent est un véritable crime. Et si vous avez lu le code, vous devez savoir quelle est la peine. Mais ce n'est rien au prix de votre dernière infraction aux lois. Comment ? Vous, maire d'un canton, chargé de veiller à la sûreté de tout un pays, vous reconnaissez un assassin, un pirate, un homme signalé comme le plus exécrable des hommes, que toutes les sociétés poursuivent, et vous le laissez faire ses préparatifs de départ en paix. Allez, monsieur, il n'y a qu'une confession franche qui puisse vous sauver, et il faut vous signaler par l'arrestation de ce misérable.
« Monsieur, dit le sec, quant à la confession, je la ferai. Quant à l'arrestation, ne comptez pas sur moi. L'homme que vous voulez arrêter est mon bienfaiteur. Faites de moi ce que vous voudrez, mais ne faites pas un monstre. »
Cette scène avait dès lors décidé du sort de monsieur de Durandal, et son arrestation avait été ordonnée. Par une de ces fatalités inconcevables, les gens chargés de cette expédition difficile avaient pris la grande route pour aller à Durandal. Et quand Charles sortit du château pour venir à Valence détourner l'orage qu'il avait amassé sur la tête de son cousin, l'escouade de gendarmerie était sur la route de droite. Un autre piquet avait pris le chemin du village et des gendarmes déguisés rôdaient autour de la grille neuve par laquelle Charles était sorti. Il n'avait pas éprouvé d'obstacle parce que les gendarmes le reconnurent et qu'il était seul dans son cabriolet. D'un autre côté, Vernier, le soir de l'arrivée de Charles à Durandal, ayant terminé tous ses préparatifs, avait, pendant la nuit, volé chez Jeanneton pour lui faire ses adieux. Il y était resté toute la journée, de manière qu'Argot et Annette étaient livrés sans protecteur à l'horrible assaut que l'on allait donner à Durandal sur le soir. Laissons Charles sur la route galoper à toute bride. Vernier chez Jeanneton qui l'accable d'amour, de caresses et qui le tourmente. N'écoutons pas la scène d'amour la plus suave, la plus délicate et les plus généreux propos qui aient été prononcés par des lèvres humaines. Et revenons à Durandal, dans l'appartement d'Annette. Chapitre 22. Il y avait environ une demi-heure que Charles était parti. Annette avait pleuré en le voyant s'échapper avec une telle rapidité et dans une agitation aussi grande. « C'est la dernière fois que je le vois. Il ne m'a pas même embrassé. Quel trouble ! Ce qu'il a osé me dire aura déplu à Jacques. » Elle tomba dans la rêverie. Il faisait sombre car elle n'avait pas de lumière et elle regardait le ciel qui brillait d'un éclat pur. Les étoiles scintillaient. « Oh, beau pays de France, dit-elle, je vais donc te quitter pour toujours. J'irai prier, j'irai aimer sous un autre ciel. Il est vrai que l'on aime et que l'on prie sous tous les cieux. Ils sont la voûte d'un grand temple. Partout où il y a terre pour s'agenouiller, on trouve une église. Et partout où fleurit la verdure, on aime. Le cœur ne connaît pas tel ou tel lieu. Partout il est le même. » Et à ces îles charmantes, il sera en sûreté. Rien ne viendra me ravir mon cher bonheur. Ah, ce me sera la France. Je voudrais qu'il fût là pour le lui dire. Oh, quelle âme d'homme, quelle vertu! Oui, c'est mon époux de gloire. » Sa tête tomba sur sa jolie main, et des larmes délicieuses coulèrent sur son visage céleste. Et, la relevant tout à coup, elle dit vivement à une étoile qui brillait plus que les autres. « Oh oui, bel astre, tu me dis qu'on lui a pardonné. » Elle était sublime en regardant cette belle planète, et elle élançait mentalement une vive et brûlante prière au ciel, lorsqu'une chouette cria trois fois, et ce cri lent, clair et funèbre la glaça. Elle retomba sur son fauteuil et écoutait avec horreur. Elle entendit alors des pas précipités dans le salon qui précédait sa chambre. « Ah ! S'écria-t-elle, ma mère arrive et nous partirons. » À ce moment, un jeune et joli garçon de 15 ans entra brusquement avec un flambeau. Il le posa sur la table
et Annette tressaillit en apercevant les marques d'effroi qui dérangeaient la beauté d'une figure virginale. « Ah oui !» s'écria-t-il d'une voix douce et flûtée. « Il n'y a que vous qui puissiez être Annette !» Il posa son doigt mignon sur la bouche d'Annette, prête à parler, et dit à voix basse « Chut ! Ils sont encore ici !»«
Qui ?»
demanda Annette, glacée d'horreur.
« Les gendarmes !»
À ce mot, Madame de Durental resta exactement dans la même position. Ses yeux se fixèrent, sa prunelle ne vacilla plus, et elle eut l'air d'une statue posée sur un tombeau. Elle devint pâle et horriblement contractée.
« Écoutez-moi, dit le jeune garçon, je suis Jeanneton, l'ami de Vernier. Il est venu me faire ses adieux et voulait me laisser en France, quoiqu'il allât à l'île des Mules. »
Elle voulait dire aux îles Bermudes. Je n'ai pas pleuré, je l'ai bien embrassé et bien fêté. Mais quand il a monté à cheval, je me suis esquivée. J'ai pris les habits de mon garçon, les plus beaux, s'entend. Et quand Vernier a été sur la grande route à galoper, il a entendu le galop d'un autre cheval qui suivait le sien. Il a demandé qui était là, j'ai répondu « Jeanneton ». Et il n'a plus osé me refuser de le suivre. Voilà que nous arrivons à l'avenue de Durental tout à l'heure et que nous entendons devant nous des chevaux, comme s'il y avait beaucoup de monde. Et à l'allure des étoiles, nous voyons briller les chapeaux et les sabres d'une troupe de gendarmes. Vernier a vu qu'ils allaient à Durental et m'a dit de tâcher de franchir le saut de loup qui est devant la statue de je ne sais qui et de venir vous avertir de faire sauver monsieur de Durental, aussitôt qu'il aurait réussi dans un projet qu'il méditait. Il m'a dit pour cela d'examiner ce qui se passerait, et en cas de réussite, il m'a instruit de ce qu'il fallait faire. J'ai couru, j'ai sauté par-dessus le fossé, et je suis arrivé au grand portail. Là, avant que les gendarmes ne sonnassent, j'ai entendu Vernier, qui a crié de loin avec sa voix terrible,
« Qui vive ?»
Et il a fondu sur l'escouade en disant, « Qui ose entrer à mon château à l'heure qu'il est? Je ne loge pas de militaires à Durental. » Alors il y a eu un chuchotement et l'on a dit « c'est lui, est-il seul? Courons !» Après, j'ai entendu Vernier crier « Répondrez-vous? Je suis monsieur de Durental. » Alors il était près d'eux, ils l'ont entouré, ils lui ont dit qu'il venait l'arrêter. Il s'est laissé emmener. « C'est beau, madame !» « Ah, mon Vernier est généreux !»«
Oh, quel homme !» dit Annette.
« Chut ! Écoutez !» ajouta la naïve Jeanneton. « Il m'a recommandé tout et en une minute. C'est qu'il a une tête. Oh, c'est un bien brave homme. Il faut, qu'il m'a dit, que madame Annette laisse ignorer à Jacques que j'ai été arrêtée pour lui, et il faut l'emmener par la petite porte du parc chez un voisin. Il en aura le temps, parce que je ne ferai connaître l'erreur qu'à Valence, et aussitôt je viendrai le sauver. Mais, a-t-il ajouté, il ne faut pas lui dire ce qui se passe.
Nous sommes perdus. Jacques ne voudra pas.
À ce moment, Milo, effaré, arriva et dit, « Madame, il y a des gendarmes postés dans l'avenue du village, et l'on dit que l'on vient arrêter monsieur. » J'ai réuni tout notre monde, nous sommes dans la cour, nous avons des armes et nous allons...
« Milo, dit Annette, allez recommander aux gens de se tenir bien tranquilles et d'attendre mes ordres. »
Milo sortit, elle le rappela et lui ajouta « Dites à monsieur de Durental de passer chez moi à l'instant même. » Annette se leva, parut recevoir une force supérieure et... montant en énergie à la hauteur des circonstances, elle s'écria
« Dieu et lui, voilà mon cri.
Mon enfant, nous le sauverons. »«
Quelqu'un arrive, » dit Jeanneton.
« Dieu, c'est du bruit qui vient du dehors. » Elle courut à la fenêtre et cria
« Un gendarme !»
En effet, Annette, stupéfaite, aperçut le chapeau bordé de blanc et la tête d'un gendarme sur la pierre de la fenêtre. Jeanneton courut pour le précipiter, car il paraissait qu'il s'était servi du treillage qui était sous la fenêtre comme d'une échelle. Mais la jolie hôtesse s'arrêta, car il cria « Ami,
« Oui, madame de Durental. »«
C'est moi, » dit Annette.
« Écoutez, madame, je suis un vieux marin, et j'aime trop mon ancien pour le voir égorgé. J'ai le poste du village. Je viens vous prévenir que le parc est gardé partout, et que si le capitaine n'est pas encore arrêté, vous pouvez le faire évader de mon côté. Je suis à la porte qui va à la maison de mademoiselle Sophie. J'ai placé une échelle à 20 pas de la porte, et l'échelle vous mettra sur le mur du jardin de mademoiselle Sophie, car le mur de son jardin touche le vôtre. Mais allez doucement, que personne ne vous entende. Je n'aurai pas d'oreille. »
« Que le ciel vous récompense !» s'écria Jeanneton. « Mais Vernier est arrêté à la place de monsieur de Durental, et ils l'ont emmené. »
« Dieu soit loué !» s'écria le gendarme. « C'est digne du lieutenant. »«
Eh bien, dit-il, nous ne tarderons pas à le savoir. Mais sauvez-vous, parce que la justice va arriver pour saisir les papiers, pour verbaliser. Ils sont chez l'adjoint du maire.
« Tenez !» dit Annette, en présentant au gendarme une épingle de diamant d'une grande valeur que portait Argot et qu'elle avait aperçue sur sa pelote.
« Tenez, prenez, car c'est l'épingle que portait celui que vous aimez. »
« Oh, généreuse et digne femme, je me ferai tuer pour lui et pour vous. »
À ces mots, le gendarme, que l'on doit avoir reconnu pour celui qui, au commencement de cette histoire, était avec les maçons sous la treille, descendit doucement et regagna son poste. Mais au moment où sa tête disparaissait, M. de Durental entra, et Annette se trouva dans le plus grand embarras, car voici ce que dit Argot.
« Que me veux-tu? Comme tu es pâle! Qu'as-tu? Que demande ce jeune homme ?»
Annette, mentir, c'était bien chose impossible. Elle restait dans une horrible angoisse, levant ses yeux sur son mari, regardant Jeanneton et ne sachant que dire. Quelles âmes nobles, pures et religieuses pourront comprendre ce supplice où l'amour était combattu par la religion?
Il s'agit, dit-elle enfin, de sauver quelqu'un, et j'ai compté sur ton secours. Cette jeune enfant est venue m'avertir.
« Il n'y a pas un instant à perdre !» s'écria Jeanneton. « Il faut venir, monsieur, tel que vous êtes, car il n'y a que vous qui puissiez... »«
Oui, » dit Annette, « il n'y a que toi qui puisses le sauver. Viens, je vais t'accompagner, et nous te dirons ce dont il s'agit. La chose est si grave que c'est ce qui cause mon effroi. »«
Allons donc sur le champ, » dit Argot. « Mais faisons mettre nos chevaux. »«
Non !» répliqua Annette. « Nous irons à pied à travers le parc, car c'est dans le village qu'il faut nous rendre. »
Et Annette s'élança en lui disant « Viens donc !» Argot, étonné, ne savait que penser, lorsque Jeanneton le prit par le bras et l'entraîna à travers la galerie.
« Il s'agit, lui dit-elle, de venir au secours de Vernier. »
Alors Argot, épouvanté, les suivit. Ils traversèrent les jardins et le parc en silence, car Argot ayant demandé à sa femme « Comment se fait-il que Vernier soit... » Annette l'interrompit en lui fermant la bouche avec sa main et dit à voix basse
« Chut ! Silence !»
Ils arrivèrent à la petite porte du parc par laquelle Annette était entrée quand elle vint à Durental. Et là, Jeanneton, avec une adresse incroyable, mit une clé rouillée dans la serrure et ouvrit la porte sans faire le moindre bruit. On trouva, en tâtonnant, une échelle appliquée contre le mur du jardin de mademoiselle Sophie. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais ils restèrent interdits, car Annette dit à Jeanneton « Comment ferons-nous maintenant ?» Ils entendaient, à 100 pas d'eux, le bruit des armes des gendarmes et des voix confuses, ce qui rendait leur position plus difficile. Alors Jeanneton dit à Argot « Monsieur, voulez-vous monter sur cette échelle ?» Et lorsque vous serez sur la crête du mur, vous l'enlèverez et la reporterez de l'autre côté pour descendre.
« Mais à quoi cela vous servira-t-il » demanda Argot.
« Chut !» dirent Jeanneton et Annette. « Chut ! Silence ! Et faites ce que nous vous disons !»«
Quand tu seras dans le jardin, » ajouta Annette, « reste-y jusqu'à ce que tu me voies venir. C'est moi-même qui viendrai te chercher. »
Lorsqu'Annette et Jeanneton virent M. de Durental sur la crête du mur et qu'elles l'entendirent descendre, elles s'embrassèrent comme deux sœurs en s'écriant à voix basse « Il est sauvé !» Alors elles songèrent à se rendre chez Mademoiselle Sophie pour implorer son secours. En ce moment, toute la société de Mademoiselle Sophie était réunie et s'entretenait des événements extraordinaires et inouïs qui se passaient dans la commune de Durental. « Il y a, disait M. de Rabon, trois piquets de gendarmerie à cheval et de la troupe, et dans ce moment l'on arrête M. de Durental. M. de Sec a été mandé et forcé de comparaître ce matin devant M. le juge d'instruction, et il n'est pas encore revenu, ajouta le percepteur. Tout ce qui reluit n'est pas or, dit Mme de Sec, et mon mari aura été dévoilé. « J'entends du bruit !» s'écria Mademoiselle Sophie. En effet, Annette et Jeanneton suppliaient la domestique de leur faire parler à Mademoiselle Sophie. Cette dernière, ouvrant la porte du salon, aperçut Madame de Durental, qui, alors, s'avança vers la vieille demoiselle et lui dit d'un son de voix qui aurait attendri un démon. « Ah, mademoiselle, Monsieur de Durental vient d'échapper. Il est dans votre jardin. » Et je viens vous supplier de le cacher dans votre maison pendant quelque temps. Vous lui aurez sauvé la vie ainsi qu'à moi. Ma reconnaissance sera éternelle. Oh, sauvez-le, je vous en conjure par Dieu, par son Fils, par tout ce qu'il y a de plus saint et de plus sacré dans le monde. » Et en disant ces paroles, elle se jeta aux genoux de la vieille fille, étonnée et stupéfaite. Tout le monde accourut, et cette scène fut aussitôt pittoresque qu'un romancier pouvait le désirer. 10 personnes entouraient Mademoiselle Sophie, qui, froide et impassible, contemplait avec joie la belle et touchante Annette à ses pieds. La pauvre enfant épiait un sourire, un mot de cette tête antique. La vieille servante tenait un flambeau et restait dans le lointain, tandis que Jeanneton, se croisant les bras, s'écria « Elle hésite, je crois !» Ce mot fit regarder Jeanneton par Mademoiselle Sophie, qui reconnut la jolie paysanne qu'elle avait fait chasser du village. La colère parut sur son visage, et elle dit à Madame de Durental « Si vous êtes conduite par cette petite gourgandine-là, je ne sais en vérité que penser de vous, madame. »« Gourgandine ! » s'écria Jeanneton. « Mademoiselle oublie qu'à 18 ans, elle avait fait un garçon tout aussi gros que le mien. » Et qu'il y a entre elle et moi une différence, c'est que j'ai avoué mon enfant, et qu'aucune puissance humaine ne m'y fera renoncer. » Annette se leva subitement et secouant violemment Jeanneton. « Vous nous perdez !» dit-elle avec un cri sublime. « Songez qu'elle peut livrer mon mari !» En effet, Mademoiselle Sophie avait le visage tout bleu de rage et de colère et s'écria « Marie !» « Allez dire à monsieur l'adjoint que monsieur de Durental est ici. » Annette ne jeta qu'un cri et s'évanouit. Mais dans l'assemblée, il y eut un mouvement d'horreur qui fut rapide comme un éclair, et l'on s'écarta comme si la foudre eût tombé en éclats. Monsieur de Durental poursuivit, n'inspirait plus qu'une douce pitié. « Va !» s'écria Jeanneton furieuse. « Vieille et laide diablesse incarnée !» Horrible sauvagesse et infâme scélérate. Puisses-tu retrouver le fils que tu as méconnu et le voir massacré sous tes yeux sans pouvoir le sauver? Les tigres ont plus d'humanité que toi. » Elle s'élança vers la fenêtre, l'ouvrit et sauta dans le jardin pour tâcher de sauver Argot. Cette vigoureuse et hardie tentative émut toute l'assemblée qui jeta un cri d'épouvante en la voyant disparaître. Annette rouvrit un œil mourant, et, trouvant en ce moment une noble énergie, elle se leva et s'écria « Je le sauverai !» Elle se dirigeait vers la porte, lorsqu'une autre personne entra et la prit dans ses bras. C'était Charles. Il avait rencontré Vernier sur la route, et voyant emmener un homme par un piquet de gendarmes, il accourut, et reconnaissant Vernier, il lui serra la main en signe d'amitié, et pria les gendarmes de le laisser parler à son cousin. On n'osa pas le lui refuser,
à cause du rang qu'il occupait dans la contrée. Et Vernier lui dit à voix basse « Votre cousin est sauvé, il est chez mademoiselle Sophie. L'erreur ne sera reconnue qu'à Valence. Courez vite et tâchez de le mettre en voiture. Les relais sont préparés jusqu'à Fréjus. Le mot d'ordre pour avoir les chevaux de 5 lieues en 5 lieues est « L'amour et Jeanneton ». Cher suspend une action qui marche aussi vite que le balancier d'une pendule. Mais le lecteur retiendra que ce que nous racontons longuement se passait en réalité avec la rapidité de l'éclair. Ainsi, au moment où Charles, le juge, l'adjoint, le commissaire, la servante, entraient dans le salon, et pendant que les gendarmes cernaient la maison sur l'avis de la vieille Marie, Jeanneton cherchait dans le jardin et appelait M. de Durental qui ne venait pas, parce qu'il ne reconnaissait plus la voix d'Annette. Lorsqu'à Valence, Mme Servigné raconta au juge d'instruction l'histoire de la bague, de l'épingle et du poison que M. de Durental portait toujours avec lui, ce fut un tel trait de lumière et une telle preuve du meurtre de M. de Saint-André. Note de l'auteur. M. de Saint-André était, dans le vicaire des Ardennes, le commandant du vaisseau dont son parait Argo pour pirater, et cette frégate se nommait la Daphné. Fin de note. Que ce magistrat jugea à propos de se transporter pour veiller à ce que cette bague fût trouvée sur M. de Durental au moment où il serait arrêté. Voilà ce qui explique comment il rejoignit au château les personnes chargées de verbaliser. Il en sortait avec eux sur la nouvelle que M. de Durental était déjà emmené, lorsqu'il rencontra la vieille servante qui leur dit qu'il était chez mademoiselle Sophie. Alors le juge pressa le pas pour se trouver à cette catastrophe. En arrivant, il demanda où était le prévenu, et personne ne put lui répondre. Cette scène forma un tableau vraiment curieux. Autour de mademoiselle Sophie étaient les 8 personnes qui composaient la société. L'étonnement se peignait sur toutes les figures, et celle de mademoiselle Sophie annonçait une profonde terreur, car elle commençait à réfléchir. Le juge, l'adjoint, leur suppôt, cherchaient des yeux M. de Durental. Charles, le coude appuyé sur la cheminée, dévorait des larmes cuisantes qui roulaient sur son visage abattu. Annette était debout, pâle, roulant des yeux égarés, et lorsqu'elle aperçut venir le gendarme, qu'elle reconnut pour celui qui leur avait donné un bon avis, elle tomba à genoux, et comme si elle était seule, elle joignit ses mains, et levant les yeux au ciel, elle fit une prière éloquente. Une multitude de lumières éclairait diversement toutes ces figures parlantes et d'expressions si multipliées, et si l'on pense à l'intérêt d'une semblable situation, on aura un des plus beaux tableaux qu'un peintre puisse offrir. En ce moment, un cri se fit entendre dans le jardin. Il était tellement perçant, il y résidait une expression de douleur si forte, si vraie, si expansive, si déchirante, que subitement tout le monde se jeta aux fenêtres et l'on regarda ce qui pouvait la causer. 3 gendarmes étaient entrés avec des flambeaux, ce qui jetait une lueur très vive sur le jardin. Et l'on vit dans l'enfoncement et contre le mur la pauvre Jeanneton, succombant sous M. de Durental. Il avait chaque pied posé sur chaque épaule de la jolie hôtesse et il atteignait déjà la crête du mur lorsque les gendarmes, en entrant, virent cette scène touchante et, quand ils se dirigèrent sur Jeanneton, elle jeta ce cri d'horreur. Alors M. de Durental descendit et, allant vers les gendarmes, il leur dit avec le plus grand calme « Si c'est moi que l'on cherche, me voici. » Il fut amené, avec Jeanneton, devant le juge qui, sur le champ, se tournant vers le gendarme, lui dit sévèrement « Et pourquoi êtes-vous venu nous avertir que l'on avait arrêté et emmené celui qui dit s'appeler de Durental ?»«
C'était la vérité, » dit Charles au juge, « car j'ai rencontré l'escouade. »
« C'est Vernier, probablement, » dit Argo. Charles fit un signe affirmatif et une profonde horreur régna.
Mademoiselle, dit Charles au désespoir en se tournant vers Mademoiselle Sophie, votre ouvrage est complet. Vos bavardages, vos soupçons m'ont conduit à chercher la vérité. Vous avez livré le criminel que vous aviez perdu. Vous méritez une couronne, car vous avez atteint le dernier degré des devoirs de l'homme social. Les légistes vous diront « c'est bien ». Le malheur, c'est que mon arme et mes mains ne sont pas pures de cet héroïsme social. Mais je ferai tant que je rachèterai ma faute.
« Et que ferez-vous, monsieur ?» dit le juge en regardant Charles.
« Ce que je ferai, s'écria ce dernier, je défendrai mon cousin et je le sauverai. J'en crois mon cœur saignant. »
« Non, dit Argot avec calme, rien ne peut me sauver. Il faut que les crimes s'expient sur la terre.
« Et vous, mademoiselle, dit-il à Mademoiselle Sophie, la religion et mon Annette m'ont appris à bénir les instruments de la volonté céleste. »
En achevant ces paroles, il lança un regard plein de bonté à celle qui l'avait livrée.
« C'est digne de qui renie son fils, dit la jolie hôtesse à Mademoiselle Sophie. « Je doute vraiment que vous ayez eu une mère. »
Annette s'était attachée à son époux et elle l'embrassait avec une force et une tendresse qui semblaient tenir à la folie. Elle ne pleurait pas, ses yeux étaient secs et brûlants.
« Est-ce qu'on ne me laissera pas avec lui, monsieur le juge ? » dit-elle.
« C'est impossible, répondit-il. Annette baissa la tête. Comme un ange, Jeanneton souriait et conservait de l'espérance. Alors, le juge se levant, fit examiner à tout le monde les bagues que monsieur de Durental portait à ses doigts. Bientôt l'on sépara Annette de force, malgré des cris déchirants, et l'on emmena monsieur de Durental, tranquille et résigné. À ce moment, Charles arrêta le criminel et lui dit « Mon cousin, je vous supplie de ne rien répondre à toutes les demandes que l'on pourra vous faire pendant vos interrogatoires. La loi, muette sur le refus d'un prévenu, vous en accorde le droit, et le débat oral devant la cour d'assises est le seul qui décide de votre sort. Je connais les lois, cette conduite n'est pas défendue. Et comme je connais aussi les ressources des lois, c'est la seule qui puisse vous sauver. Jurez-moi d'agir ainsi, et de vous enfermer dans un silence absolu.
« Monsieur, dit le juge d'instruction, vous vous compromettez en donnant de tels conseils à votre cousin. Et, membre de la magistrature, vous ne devez pas...
« Mon cousin, jurez-le-moi par l'enfant que porte ma cousine.
« Oh, jure-le » dit Annette en larmes.
« Je le promets, » dit-il.
« J'y compte !» répliqua Charles.
En les voyant partir, Annette poussa un grand cri, et parcourant des yeux le salon, elle dit à Mademoiselle Sophie
« Mademoiselle, je n'ai jamais maudit personne. Je souhaite que Dieu vous pardonne. Mais moi, oh, jamais, vous m'avez ôté plus que la vie. »
« Que le diable vous rôtisse !» s'écria Jeanneton.
« Je ne suis qu'une pauvre pécheresse, mais je suis plus riche que vous, car j'ai un cœur, et vous n'avez qu'une pierre, là !»
Elle montrait son cœur.
« Vous avez fait votre devoir, » dit Charles. « Mais moi, magistrat, je ne sais pas si je l'eusse suivi à la rigueur. »
Ils sortirent en soutenant Annette, car elle ne pouvait pas marcher. La société s'en alla sans saluer Mademoiselle Sophie. Elle resta seule avec la vieille Marie qui lui dit
« Monsieur de Durental a été arrêté précisément à la même heure que vous êtes accouché et dans ce même salon, et c'est aujourd'hui l'anniversaire. »
Mademoiselle Sophie frémit involontairement.
Chapitre 23. Le lendemain, Annette et Jeanneton, qui avaient repris les habits de son sexe et qui étaient charmantes avec la toilette que lui donna Madame de Durental, abandonnèrent le château avec Charles et s'en allèrent à Valence, suivis de Milo et des deux nègres, ses compagnons. Elle laissa le château sous la direction d'un homme que Vernier lui avait désigné comme homme de tête, et cet inconnu était un des brigands de la forêt, qui, reconnu par Vernier,
et engagé à rentrer auprès de son ancien capitaine, avait de nouveau juré de défendre Argot et le lieutenant comme par le passé. Annette rencontra à moitié chemin Vernier que l'on avait relâché.
« Mort de ma vie ! »
s'écria-t-il en montant dans la calèche où ils étaient tous trois. « Je le délivrerai, ou l'on m'enterrera sous les ruines de Valence. »
« Et il y aura des gens qui vous prêteront main forte !»
dirent deux paysans qui passaient. Ils s'arrêtèrent, et regardant Annette, ils la saluèrent et ajoutèrent
« Nous venons d'un pays où, quand on a appris que le bienfaiteur du canton était arrêté, il n'y a eu qu'une voie pour jurer sa délivrance, quoi qu'il ait fait. »«
Bonnes gens !» dit Annette. « Quelle reconnaissance ! Tenez !» Et elle leur jeta sa bourse et ses bagues précieuses.
« Est-ce du malheur ? » dit Vernier. « Tout était prêt, le départ convenu, les relais même préparés, car il semble que je me doutais de cela. Oh, je le délivrerai. Tout Valence parle de cette aventure-là. Il n'y a pas une personne qui n'en jase avec son voisin. Dans les rues, dans les maisons, c'est une nouvelle qui se commente, qui se répand, qui vole. Ces imbéciles-là me montraient au doigt. Patience, patience. Et moi, il faut que je prenne garde à ma tête, car elle me joue des tours.
Du sang-froid, mon bonhomme. » Annette lui prit la main et la pressa sur son cœur.
« Oh, digne ami, dit-elle, rendez-le-moi, et fussiez-vous un impie, je crois que j'obtiendrai votre grâce en sacrifiant ma vie future tout entière. »
« Que deviendrai-je, dit Charles, si nous ne réussissons pas, moi qui suis cause de tout ?»«
Vous ? »
s'écria Vernier en lui présentant son pistolet. « Tuez-vous alors pour m'épargner de le faire. »
« Terrible ! » dit Annette en lui prenant le bras et détournant l'arme. « Y pensez-vous ? »
« Je ne me tuerai pas, dit Charles, parce que j'espère lui être encore utile. Je suis son avocat. »«
Et votre place de procureur ? »
« Je ne l'ai plus. »«
Tant mieux, dit Vernier. »«
Ah ! » ajouta-t-il. « Bonjour, petite, je ne te reconnaissais pas. » Et il pressa la main de Jeanneton. En arrivant à Valence, ils rencontrèrent M. et Mme Gérard.
« Ah, ma mère !» s'écria Annette en la revoyant. « Que n'êtes-vous arrivée 3 jours plus tôt ? Nous serions heureux !»
Et elle fondit en larmes. M. et Mme Gérard rétrogradèrent, et ils vinrent tous s'établir dans la maison de Mme Servigné et d'Adélaïde, qui était au désespoir. Rien n'égala celui du père et de la mère d'Annette, car c'était du désespoir seul. Il ne s'y mêlait aucun sentiment, comme à celui d'Annette, qui était en proie à 1000 sentiments divers. « Chère cousine, dit Annette en revoyant Adélaïde, je devais vous envoyer hier le monument du dernier bienfait de la chère créature que la fatalité a perdue. Tenez, je vous le remets moi-même. » En disant ces paroles, elle tendait à Adélaïde et à son mari une quittance de 60 000 francs que Madame Bouvier devait encore à Mademoiselle Sophie pour achever le paiement total de ce qu'il leur devait.
« Il vous aimait parce que vous m'apparteniez par les liens du sang, » dit-elle, les larmes aux yeux.
À ce trait, toute la haine qu'Adélaïde avait pu concevoir s'effaça comme un nuage qui disparaît dans le ciel. Un silence terrible régna entre tous ces personnages réunis. Et au bout d'un gros quart d'heure, Annette s'écria
« Mon cousin, faites en sorte que je puisse passer toutes mes journées avec lui, dans sa prison. »
Charles sortit et ne revint qu'avec toutes les autorisations nécessaires pour qu'Annette, Vernier et lui entrassent dans la prison où Argot était détenu, à toutes les heures et pendant tout le temps que l'on pourrait voir le criminel. Annette et son cousin se rendirent sur le champ à la prison. Ils trouvèrent Argot dans la chambre la plus commode du lieu. Elle était toute nue, un lit et une chaise composaient l'ameublement, et sur le mur, une foule de noms écrits attestaient le désespoir, le désœuvrement et l'ennui de ses horribles prédécesseurs. La seule fenêtre de cette chambre était grillée et dans l'espèce de galerie par laquelle il fallait arriver, il y avait deux sentinelles, et au bout, le logement du concierge. Annette, en entrant, eut un horrible saisissement. Elle ne retrouva des forces que pour voler sur les genoux de son mari. Il était calme, un léger sourire errait sur ses lèvres, et il embrassa Annette avec cette douce et pure joie qui l'animait à Durantal lorsqu'il était assis près d'elle dans cette chambre de plaisir et de bonheur. Encore voyait-on dans ses traits cette teinte de satisfaction qui devait faire briller le visage des saints martyrs lorsqu'il confessait Jésus-Christ au milieu des tourments. Il semblait que l'assurance qu'il acquérait de pouvoir expier sur la terre des crimes commis sur la terre lui donna encore plus de sérénité dans l'âme que sa conduite précédente. Il avait plus de confiance à ce baptême de sang qu'il devait recevoir qu'à cette robe d'innocence que ses bienfaits et ses remords lui faisaient revêtir aux yeux de Dieu. Annette jeta un regard douloureux sur cette chambre et reporta bien vite ses yeux sur Argot, comme si elle eût craint de s'être dérobée trop longtemps à elle-même le cruel bonheur de le voir. « Ami, dit-elle, comme tu es mal ici !»« Qu'importe les lieux, mon Annette, ce m'est un temple puisque je te vois. » « Comment ? » s'écria Annette. « Une créature aussi noble, grande, généreuse, a pu commettre une action blâmable. Oh non, tu es innocent, mon cher amour. Je le dirai à toute la terre, au ciel, au juge. »«
Je suis coupable, Annette, » répondit Argot. « Mais écoute-moi. Je veux rester dans ton cœur ce que j'y fus toujours, c'est-à-dire un être que tu as rendu. » Par le céleste contact de ton âme, pur et digne d'avoir été innocent au jour de son enfance, digne enfin d'avoir repris cette candeur sainte qui t'a toujours décoré de sa grâce virginale. J'exige, mon Annette, que tu vives dans la solitude.
« Eh, je ne vivrai qu'avec toi jusqu'au dernier moment !» s'écria-t-elle.
« J'exige, entends-tu, mon ange ?» « J'exige. C'est un mot que ma bouche ne t'a jamais prononcé. Je veux que tu ne puisses en rien connaître les détails horribles de ce qui se passera à la cour d'assises. Tu me le promets ?»«
Oui. »
Pendant cette scène, Charles, appuyé sur la muraille et les bras croisés, paraissait en proie à une agitation violente et à une grande méditation.
« Mon cousin, dit-il. Vous vous souvenez de votre promesse d'hier ou de ce matin. Lors de votre arrestation, vous m'avez juré de ne rien répondre pendant le cours de vos interrogatoires. Telle demande qui vous soit faite.
Je tiendrai ma promesse.
Oui, dit Annette, c'est bien important à ce que dit Charles, et il faut suivre ses avis, mon ami, car en fait de loi terrestre, il connaît ce qui est permis et ce qui est défendu.
« Ma cousine, répondit Servigné, voulez-vous un instant nous laisser seuls ?»«
J'aime mieux, dit Annette, me fermer les oreilles, car je ne veux pas perdre une seule minute que je pourrais employer à le voir. »«
Mon cousin, dit Charles à Argot, y avait-il des témoins du crime qui paraît avoir été commis à A ?»«
Aucun, car il n'y avait que Vernier, et nous sommes la même âme. »«
Est-ce vous qui l'avez commis ?»
Oui.
À cette parole, une grosse larme roula sur les joues d'Argot, et il passa ses mains sur son visage, comme pour dérober son remords à des yeux humains.
Il y a de l'espoir, beaucoup, mais il faudra obtenir de votre mari qu'il ne fera pas à l'audience des réponses qui lui soient désavantageuses. Si alors il voulait user d'une dénégation constante,
oh, ne l'espérez pas! S'écria Argot.
« Je dirai toujours la vérité quand on me la demandera. »«
Ma tâche n'en sera que plus difficile, » dit Charles. « Mais j'espère. »«
Tu espères, Charles ? Ah, tu me rends la vie !» dit Annette.
Chaque jour, Annette vint au matin et s'en alla le soir. Vernier n'entra pas une seule fois, car aussitôt qu'il sut que son ami était emprisonné, il repartit avec Jeanneton
et on ne le revit plus à Valence. Charles, de son côté, s'occupa entièrement de l'affaire de son cousin. Et ayant reçu l'ordre de se rendre à C, où il était nommé avocat général, il envoya sur le champ sa démission et s'inscrivit comme avocat à la cour royale de G. Tant qu'Annette ne vit pas le danger imminent, et au bout de quelques jours, elle redevint comme jadis, c'est-à-dire qu'elle ne s'occupa qu'à combler d'amour, d'attention et de recherche son mari, dont la sublime résignation, le calme et la fermeté la rassurèrent. Elle reçut de beaucoup de personnes des marques d'amitié, car généralement on la plaignit. L'affaire fut instruite avec une célérité et une activité extraordinaires. Cependant, l'éloignement de tous les témoins à citer, qui se trouvaient pour la plupart à Aunay-le-Vicomte et à Vent-la-Pavée, tous endroits situés dans le département des Ardennes, fit qu'il s'écoula encore 2 mois avant que l'affaire ne fût portée au tribunal terrible du jury. Les magistrats qui composaient la chambre d'accusation étaient tous révérés, et quand on apprit qu'ils avaient décidé que M. de Durental serait mis en jugement, la ville de Valence fut plongée dans l'étonnement, et les campagnes, au milieu desquelles Annette et son mari avaient exercé leur bienfaisance active, furent frappées de terreur, de manière que cette cause devint l'occupation de tout un pays. Et l'on sait que les pays méridionaux ne s'occupent pas d'une chose à demi. M. Badger, le préfet, était tellement connu pour être l'ami intime et dévoué de M. de Durental qu'il reçut sa destitution, quoiqu'il eût agi avec finesse pour conserver sa place au moment où il pouvait sauver son bienfaiteur. En effet, il avait affecté la plus grande horreur pour lui et avait pris des mesures si sévères que l'on commençait à l'accuser dans le public. Mais cette conduite n'empêcha pas que l'on ne crût pas, dans une semblable circonstance, devoir lui confier le soin d'administrer le département au milieu duquel l'on allait juger son ami intime. Bientôt, la cour d'assises fut convoquée, et il vint de Grenoble un conseiller de la cour royale pour présider. L'affluence du monde fut extrême à Valence, et la curiosité publique était excitée au dernier point. L'on prit même des mesures envers la foule que l'on présuma devoir envahir la salle des audiences, et l'on réserva des places pour les personnes de distinction. Les avocats réclamèrent même leur banc, car ils étaient intéressés à la lutte qui allait s'engager. En effet, Charles avait fait preuve du plus grand talent pendant le temps qu'il exerça ses fonctions, et son histoire avait couru la ville. On connaissait sa haine primitive pour M. de Durental, son amour pour sa cousine, et l'on savait que c'était lui et Mademoiselle Sophie qui étaient la cause première de l'infortune de M. de Durental. D'un autre côté, M. de Ruisan était l'adversaire, l'ennemi avoué de Charles. L'affaire de M. de Durental paraissait peu douteuse. Conséquemment, la lutte entre ces deux talents devait être fort intéressante. Il est vrai de dire que la noble conduite de Charles et son refus de la place d'avocat général à C lui avaient conquis tous les suffrages et lui faisaient pardonner les torts qu'il avait eus envers son cousin, alors qu'il était procureur du roi. Enfin, le jour de la justice humaine arriva pour le criminel, et le premier jour, en présence d'une assemblée immense, les juges parurent sur leur tribunal, dans une salle majestueuse. Un grand crucifix était placé au-dessus du président, qui, entouré des juges, se trouvait en face du public. Les jurés se trouvaient à droite et le criminel à gauche. Le procureur du roi, M. de Ruisan, était presque à côté d'Argot, que des gendarmes gardaient à droite et à gauche. Et Charles n'était séparé d'Argot que par la boiserie de l'espèce de stall dans laquelle se trouvait l'accusé. Quand Argot parut, tous les regards se portèrent sur lui avec une espèce d'avidité, et cette vue produisit dans l'âme des spectateurs des sentiments divers. cette figure avait contracté un tel caractère de sublimité et de grandeur, il régnait une telle sérénité d'âme sur ce front, où jadis brilla tant d'énergie, qu'il y eut généralement une tendance à l'admiration. Les femmes, surtout connaissant par la voie publique la concorde et le bonheur qui vivifiaient son ménage et la grandeur qui éclatait à Durantal, lui tenant compte enfin du dévouement profond d'Annette, furent influencées en sa faveur par son seul aspect. Le hasard avait voulu que les seuls croisés de la salle fussent du côté des jurés, ce qui faisait que tout le jour tombait, comme un rayon du ciel, sur l'accusé, et qu'aucun des mouvements de sa figure ne pouvait échapper à ses juges. Au milieu du public privilégié, on remarqua un homme debout contre une croisée. Il regardait la masse des jurés qui attendaient le choix qu'on allait faire d'eux, et il la regardait avec une attention de tigre. Son œil avait quelque chose de perçant. Il parcourait, de son regard terrible, l'assemblée et principalement les magistrats, avec une curiosité sauvage. Cet homme, fortement contracté, souffrant, pâle, abattu par de grands travaux et des souffrances physiques, était Vernier. Sa figure annonçait une grande douleur morale et de grandes résolutions. Lorsque les jurés furent choisis, que les récusations furent exercées de part et d'autre, Vernier remarqua chacun des 12 juges que la société donne aux criminels, et il sortit. Tout le monde étant assis, le président ouvrit la séance et les débats, recommanda le plus grand silence, et un greffier lut l'acte d'accusation. Nous allons en rapporter succinctement les principales circonstances, afin que le lecteur soit parfaitement au fait de ce grand débat, et nous lui éviterons la prolixité nécessaire de l'acte qui tiendrait trop de place dans un moment aussi intéressant. Depuis longtemps, y était-il dit, les divers États avaient été instruits de l'existence d'un exécrable pirate, nommé Argo, lequel infestait les mers d'Amérique. À ce nom, il y eut un mouvement dans l'Assemblée. Il était signalé par tous les gouvernements, et l'on savait que ces pirateries avaient commencé par l'anéantissement d'une flotte espagnole qui portait à Cadix l'argent de la Havane. Ce pirate était un contremaître de la frégate la Daphnie, commandée en 1800 par M. le marquis de Saint-André, contre-amiral au service de France, et qui s'y rendait pour recevoir les ordres du gouvernement. Argo avait soulevé l'équipage et s'était emparé du vaisseau après avoir déporté M. de Saint-André et tous les officiers qui lui restèrent fidèles. Et l'on remarquera que de tous ces officiers, déportés sur un rocher stérile, il n'y eut que M. de Saint-André qui revint en France. Longtemps, tous les gouvernements, effrayés des pirateries horribles de ce brigand qui dévastait les mers, s'étaient concertés pour s'en emparer. Mais son habileté et sa valeur, le dévouement de ses satellites, le firent échapper à toutes les poursuites. Il vint un jour échouer sur une côte aux États-Unis et, envoyé à Charlestown, il fut condamné à mort. Mais, s'étant rendu utile à l'Union par la vaillance de ses troupes, il obtint sa grâce. L'immensité de ses richesses lui fit penser à jouir des fruits de ses crimes. Il vint en France, décidé dès lors à vivre tranquillement. Et, se fiant à son opulence et au genre de vie qu'il adoptait, il crut demeurer impunément sur cette terre hospitalière. Il y aurait vécu, en effet, sans être atteint par d'autres lois que par celle de la vengeance divine, si la Providence n'avait ordonné qu'il se décèlerait lui-même par de nouveaux crimes. En 1811, Argo, qui depuis son retour prenait le nom de Max Andy, avait acquis plusieurs terres, et notamment la terre de Durantal. Un de ses amis, nommé Vernier, et sur la complicité duquel la justice n'a pas obtenu assez de preuves pour le faire paraître à côté d'Argo. « Et c'est son regret !» s'écria une voix terrible qui sortit du milieu de la foule au moment où le greffier lut cette partie du réquisitoire. On chercha vainement l'interrupteur, et cette phrase parut émouvoir singulièrement Argot, qui dit à voix basse à Charles
« Oh, un ami !»«
Avait acheté, » continua le greffier, « soit pour le compte de son ami, soit pour le sien, une terre très considérable avant la pavée. Monseigneur l'évêque d'A y possédait une terre voisine de celle de Vernier, et les appartenances de ces deux propriétés étaient tellement encadrées les unes dans les autres que Maxendy et Vernier se rendirent exprès à A pour acheter la propriété de Monseigneur l'évêque d'A. Monseigneur était le frère de Monsieur le marquis de Saint-André, et ce dernier venait de rentrer en France, cherchant une fille chérie nommée Mélanie, qu'Argot avait enlevée à Paris et retenait prisonnière dans son château de Vent, espérant épouser la fille de son ennemi et l'obliger ainsi à se taire, si par hasard il revenait. Lorsque Vernier et Argot se présentèrent chez Monseigneur d'A, ils revirent Monsieur de Saint-André, qui, n'écoutant que sa vengeance et la juste indignation que lui inspirait la vue d'un tel criminel, envoya sur le champ chercher la gendarmerie pour le faire arrêter. Ce fut alors qu'Argot Maxendy découvrit à son ancien chef la situation de Mademoiselle de Saint-André. Le danger pressant dans lequel était sa fille obligea M. de Saint-André à différer de livrer aux lois son ancien matelot, jusqu'à ce qu'il lui eût rendu sa fille, que ce dernier menaçait de mort. Après cette entrevue, M. le marquis de Saint-André fut trouvé mort, et dans la nuit, Argot partit. Voici les faits principaux. Et maintenant commence un autre ordre de faits. Argot avait intérêt à commettre ce crime, et les faits suivants vont établir sa culpabilité. À ce moment, l'audience fut interrompue par un fait singulier qui donna lieu à arrêter la lecture de l'acte d'accusation, et le volume suivant en instruira le lecteur. Fin du troisième volume.